Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler dans un instant avec Marco Cagliari qui va nous faire une chronique sur le champion paralympique Gary Longhi et de sa résilience. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous recevons Isabelle Leblanc qui a écrit et mis en scène la pièce de théâtre Rita au désert qui se jouera au théâtre de Katsu du 16 novembre au 4 décembre. Alors on va commencer avec une pièce de Marco et on l'a au téléphone tout de suite après ça. Bonjour Marco Cagliari.
Buongiorno Arlette Farà.
Ah, tu me mets de bonne humeur dès que j'entends ton accent italien qui prononce mon nom. Là, c'est le bonheur. Tu vois, il m'en faut peu. La chanson qu'on vient d'entendre, dis-nous ce que c'est et la raison pour laquelle elle est là, puisque c'est ce qui débute ta chronique d'aujourd'hui.
Bon, la chanson s'appelle « Ho un amico », qui veut dire « j'ai un ami ». En fait, elle a deux significations aujourd'hui. Et la chanson telle quelle, que c'est une chanson que j'ai composée pour mon album Alpha West en 2010, qui parle d'un ami qui était paraplégique, en fait, qui s'appelait Simon Lortie à l'époque, un jeune homme que j'ai eu la chance de croiser à maintes et maintes reprises parce que j'étais longtemps parrain pour un événement extraordinaire pour Mémo Québec, qui était Moelle épinière et motricité Québec. Et à chaque année, il faisait un grand spectacle. Et Simon, ben, j'ai eu la chance de le rencontrer et de le voir changer, devenir un espèce de super-héros, un jeune homme qui voulait devenir autonome en tant que paraplégique. Et il est arrivé. Et un jour, bon, il est parti, en fait. Et j'ai eu une espèce de comment je peux dire, une poussée d'émotion où j'ai écrit une chanson pour mon ami, une chanson qui avance comme mon ami. Et dans la chanson que j'ai écrite pour Simon Lortie, eh bien, je cite le nom Longhi. Longhi, c'est le nom de mon cousin, qui s'appelle Gary Longhi. Et dans le fond, ma chronique, ça parle de mon cousin Gary aujourd'hui. Et elle parle de Gary parce que, bon, dans la chanson, premièrement, je dis que Simon était devenu une espèce de super-héros. Il était aussi vite qu'un Longhi. Et Longhi, mon cousin, eh bien, il était champion paralympique en cyclisme.
D'accord.
Il a été 12 ans dans l'équipe canadienne. Il était vraiment un symbole extraordinaire pour l'équipe canadienne. Il a gagné des médailles. Il a fait quatre Olympiques. Il a fait, mon Dieu, Séoul. Oui, attendez, Séoul, Sydney, Barcelone, c'est quoi les autres? Là, je ne l'ai pas devant moi, mais bref, il a fait 4 Olympiques. Et c'est même lui qui, en 2000, a été nommé pour porter le drapeau, parce que Gary était vraiment un symbole de résilience, mais surtout, il faisait, comment je peux dire, il amenait quelque chose à toutes ses amis, autant sa famille que ses amis aussi paralympiens.
Oui.
Parce qu'il amenait une bonne humeur, c'était quelqu'un avec un sens de l'humour extraordinaire. Et je vous parle de lui aujourd'hui parce que la semaine dernière, eh bien, l'ex-mairesse de notre quartier, qui, je vais dire ex malheureusement, parce que je trouve ça très triste qu'elle n'ait pas rentré dans notre quartier, c'est une personne extraordinaire qui a fait beaucoup de bien dans notre quartier, son nom c'est Giuliana Fumagalli. Et une des choses extraordinaires qu'elle a fait, c'est quand Gary est décédé l'an dernier d'un cancer très, très, très violent, Gary a demandé l'aide à mourir. Et il voulait mourir à ses 56 ans, finalement, à son anniversaire, le 2 juillet de l'an dernier. Et Julianne a été très, très, très touchée par ça, parce que le mouvement paralympien est familial et tous ses amis, et on était très, très, très touchés de ça. Et Julianne, elle nous a proposé si on pouvait faire quelque chose, peut-être nommer une rue, nommer un parc en son nom, parce que...
Oh, c'est bien ça.
Oui, c'est bien. Et la semaine dernière, donc quelques jours avant les élections municipales, eh bien, elle a réussi à nommer le parc Saint-Damase, qui est mon parc à moi aussi, dans le sens que j'ai grandi dans ce parc-là. C'est le parc où mon cousin a grandi aussi, où il jouait quand il était jeune. Et lui et moi, nous avons toujours habité dans le même quartier, parce que nos mères sont des sœurs. Et ma mère est venue ici au Canada à cause de sa mère, parce qu'elle était tout seule ici avec son mari, mon oncle Atos, qui s'appelait Atos, et c'est lui le fameux Longhi, et non Cagliari. Et c'est ça, donc, c'est dans le quartier Saint-Michel, et ils ont intronisé finalement le parc Saint-Damas, est devenu maintenant le parc Gary Longhi, grâce à Giuliana Fumagalli, et je voulais absolument...
Marquer le coup et la remercier pour ça.
Marquer le coup, partager, la remercier et parler de mon cousin, parce que c'est vraiment un pilier, c'est quelqu'un... tu sais, souvent, les Olympiques passent et oui, on regarde un peu tous d'une façon ou d'une autre les Olympiques, mais les Paralympiques sont toujours tout de suite après. Et il y a des gens, en fait, pour moi, les vrais héros et les vrais champions sont
ceux qui font les Paralympiques.
Dans ces Jeux.
Oui.
Oui, d'accord. Exactement.
Parce qu'il faisait beaucoup la promotion du cyclisme handisport.
Oui, totalement. En fait, la particularité de Gary, c'est que Gary a eu un accident de moto à 19 ans. Et c'est ça qui l'a rendu handicapé. En fait, lui, c'était une... Je sais pas en français, parce que j'ai comme un communiqué en anglais. Ça s'appelle le CP4, qui est un Cerebral Palsy.
Oui, il a eu une commotion cérébrale, quoi.
Oui, ça ressemble à ça, finalement. En fait, il a été dans le coma, mon cousin, pendant 3 mois. Et il est sorti.
Dieu.
Et oui, oh, non, il vient de loin. Alors, il est remonté sur un vélo. C'est son père qui avait un petit vélo comme ça, et un moment donné, il est en voyage à Cuba. Mon oncle et ma tante aimaient ça aller à Cuba, et il avait amené son petit vélo, et il a recommencé 3 ans plus tard, donc à 22 ans, à remonter sur un deux roues. Et finalement, peu après, finalement, écoute, il s'est remis vraiment en forme. Et d'une façon ou d'une autre, il est rentré dans l'équipe paralympique pendant 12 ans. Et il faut que je dise, c'est aussi le seul paralympien qui a été intronisé dans le Hall of Fame, disons, des cyclistes canadiens. C'est le seul paralympien. Alors, c'est une grande, grande fierté dans la famille et dans l'équipe canadienne, finalement.
Ben oui, c'est sûr. Quand on voit ça, quoi, c'est ce qui est dit à Séoul en 88.
Oui,
il est le premier cycliste québécois à prendre part aux Jeux paralympiques.
Exactement.
Il a fait aussi Barcelone, je vois.
Il a fait Barcelone, Australie, Atlanta.
Atlanta aussi.
Ont été ses meilleurs exploits, si je peux dire. Il a gagné la médaille de bronze. Mais il a fait la médaille d'or, mais dans les essais de temps, ils font toujours des essais. Et il avait gagné la médaille d'or juste avant finalement de gagner officiellement la médaille de bronze. Mais il a vraiment eu une super belle carrière sein de la...
Avant qu'on revienne sur son histoire, une question pour toi. Est-ce qu'il fait partie des gens qui t'ont inspiré? Parce que toi aussi, enfin, tu n'as pas eu d'accident, pardon, mais je veux dire, toi aussi, tu t'occupes beaucoup... des personnes qui ont des problèmes mentaux ou d'accidentés, ou tu as fait beaucoup de choses pour ça aussi.
Ben, écoute, tu sais, dans la vie, peut-être que des fois on se pose pas de questions, mais on est ce qu'on est, puis on reçoit un peu la culture
ou l'éducation qui va avec.
L'éducation, exactement. Donc c'est sûr que mon cousin, à l'âge de 19 ans, je me souviens encore le premier. Écoute, c'était en 1983, je me souviens encore quand c'est arrivé. La famille était complètement sidérée, là, on était tous à terre, puis le voir surmonter des épreuves extraordinaires, c'est sûr que c'est inspirant, c'est très, très inspirant. Et Gary, vu que nous deux, on a grandi vraiment dans le même quartier, on a toujours été dans le même quartier, donc Gary, c'était la personne la plus aidante que tu pouvais connaître, et la plus drôle aussi. C'est quelqu'un qui réussissait à te faire rire. Vu son coma, il a eu une trachéotomie, ça l'a endommagé ses cordes vocales. Alors Gary était il avait quand même de la misère à se sentir à sa place dans une foule ou avec des gens. Donc, c'est pour ça aussi qu'il utilisait beaucoup l'humour. Il faisait, écoute, en un temps, 3 mouvements, il faisait rire une salle au complet.
Oui. Est-ce que ça faisait partie, quand on a des chocs comme ça, des moments, ça fait perdre la mémoire?
Non, c'est
ou
ça,
des mémoires à court terme, non?
Lui, ça a vraiment aucunement touché sa mémoire. Ça a vraiment, c'était vraiment au niveau de l'ordinateur et des mouvements. En fait, juste le fait qu'il ait réussi à remonter sur un vélo, sur un deux roues, c'est un exploit, là. Tu vois que c'était pas simple, mais il réussissait.
Comment ça s'est passé? On va peut-être faire une petite pause musicale d'une minute. On va écouter mes aïeux, court, et puis après on revient, et après tu me diras comment ça s'est passé pour lui quand il a dû sortir de là pour... revenir et refaire quelque chose, parce qu'après un choc pareil, quand même, c'est difficile de relever la tête. On écoute mes aïeux, on revient tout de suite avec toi. Country. voici de retour, toujours avec Marco Cagliari. Marco, pour parler de Gary Longhi, donc on va parler de son accident et de comment ça s'est passé tout de suite après. Mais je lisais aussi dessus qu'il a reçu, pour parler de ce que tu disais de l'homme, il avait reçu le prix de l'esprit sportif lors des Jeux canadiens de 91.
Oui, ben c'est une des raisons justement qui Louis Barbeau, qui était l'assistant-chef de mission à Sydney, il disait que Gary amenait une force à tout le monde. En fait, quand tout le monde se sentait un peu hyper stressé finalement avant de courir, de faire sa performance, Gary était toujours là pour détonner avec une blague ou quelque chose. Écoute, je me souviens quand il était intronisé, j'étais là. Il m'avait invité pour jouer cette journée-là. Et Gary, c'était à l'époque où Guy Lepage animait la disque. Et cette année-là, Richard Desjardins n'était pas dans la salle. Il n'était pas là pour aller chercher ses prix. Alors Guy Lepage, après le troisième Félix que Richard Desjardins a gagné, puis qui a vu, mon Dieu, il s'est même pas pointé pour. Et puis plus ou d'une façon ou d'une autre, il allait savoir qu'il allait gagner cette année. Mais le fait qu'il ne s'est pas pointé, alors Guy Lepage a pris le Félix et il l'a lancé en arrière de lui, à bras portants. Là. Il l'a vraiment lancé derrière lui. Et tout ça pour dire que Gary, quand il a eu sa plaque commémorative, eh bien, la première chose qui est venue à l'idée, c'est qu'il a pris la plaque et il l'a lancé derrière lui. Ça venait d'arriver, le truc de Guy Lepage. Alors, écoute, toute une circonstance, il a fait rire aux larmes, la salle au complet. C'est ça, c'est Gary. Donc, on peut imaginer que amener Gary dans un contexte paralympien, ça l'amenait vraiment, vraiment un plus.
Alors, je sais pas, puis toi non plus, parce que ni l'un ni l'autre, on a eu ce genre d'accident. Mais pour tout accident aussi grave que ça, qui amène quand même des séquelles et des conséquences, une fois, j'en sais rien, j'imagine en tout cas, qu'une fois, il faut du temps pour absorber le choc. J'allais dire, une fois le choc absorbé, non, il faut quand même du temps pour absorber le choc et pour repartir sur quelque chose. Parce que pour certains, ils peuvent aussi ne plus se voir en état de fonctionner correctement et ne plus avoir d'envie suite à ça. Lui, ça lui est pas arrivé.
Écoute, Gary était quand même très bien... Très bien entouré,
oui.
Que, oui, ses parents, la famille au complet, nous.
La famille, vous, oui, c'est sûr.
C'est sûr qu'il était jeune quand même, il avait 19 ans, c'est très jeune. Puis en fait, c'est que Gary et sa sœur Gabi, ma cousine, ont toujours eu des motos. C'est vraiment des gens qui aiment les motos, mais pas des petites motos. Là.
Des grosses motos.
On parle d'Harley-Davidson, des trucs comme ça. L'ex-mari à ma cousine, il monte des motos, il remonte et démonte et remonte des motos. Et Gary a toujours été dans cette espèce d'ambiance-là, avec des machines toujours.
C'est d'ailleurs un accident de moto qu'il a eu.
Ben oui, c'est un accident très bête. En plus, c'est en plein ville. Je me souviens que c'était un dimanche. Pas trop tard, et c'est un chauffeur qui l'a happé en plein, si je me trompe pas, Christophe Colomb et Beaubien, à une lumière. La voiture a pas fait sa lumière, est allée tout droit et a ramassé Gary. Gary a été catapulté et il est tout de suite dans le coma pendant 3 mois. Et quand il s'est réveillé, ben c'est ça, on voyait que, en fait, toute sa mémoire était là. Mais c'était vraiment les mouvements, là, la connexion se faisait plus. Alors, il a vraiment réappris à parler, à marcher, à boire, à manger.
Ça doit faire peur quand même, ça.
Oui, c'est clair. Non, c'est pour ça que je dis que c'est
là où la résilience, elle rentre en jeu. C'est qu'il faut, il faut avoir un but, quelque chose, et puis passer. Parce que, est-ce que au moment où il a eu cet accident, il faisait beaucoup de moto, tu nous dis, mais il faisait pas spécialement de vélo?
Non.
Le vélo, c'est le vélo qui lui a redonné le goût de la vie.
Le goût, exactement.
Ah oui.
Exactement. Ça a été, comme je disais, son père, ses parents allaient à Cuba. Ils se louaient une petite cabane, là, vraiment. Il aimait ça, être vraiment en retrait de tout. Et c'était des gens très modestes, là. Et il amenait un vélo qui se pliait en deux. Tu sais, les espèces de vélos qui se plient de côté.
Oui, oui.
Et il amenait ça, et c'est vraiment en vacances, là. Gary, il s'est mis à monter sur le vélo, puis il a commencé à aimer ça, et finalement, et ensuite, ben, il a rencontré les bonnes personnes qui, c'est un hasard, en fait, il a rencontré des gens qui ont un lien avec les, avec l'équipe canadienne, et de là, ils l'ont, comment je peux dire, ils l'ont entraîné, et il est devenu le champion qui méritait d'être.
On a connu. Ben, en tout cas, c'est, oui, vas-y.
Je dois dire aussi, l'an dernier, j'ai eu un bel appel de Alexandre Béliard qui fait oui. qui écrit
oui,
tellement bien.
Oui, je connais
bien,
des choses écrit, extraordinaires, oui.
Ben oui, il écrit sur des personnages historiques oui. et il y a un lien avec, dans le fond, c'est qu'il fait un spectacle une fois par mois. Je pense qu'il en fait encore à Saint-Jean-sur-Richelieu de la salle de spectacle. Là-bas, là, j'ai pas le nom de la salle, mais il fait un hommage ou un thème. Il y a un thème, une thématique à chaque spectacle et l'année dernière, il m'appelle, il dit « Marco, j'ai une thématique sport et je veux écrire une chanson sur ton cousin. » Mais mon Dieu, alors il avait entendu parler, il avait suivi un peu l'histoire de Gary dans ses derniers moments et là, il voulait écrire quelque chose. Alors, il voulait m'inviter dans le spectacle aussi. Puis là, ça tombait bien parce que moi aussi, j'en avais écrit une chanson, mais je trouvais ça le fun que lui ait l'idée d'en écrire une. Alors, ce qu'on a fait, moi, j'ai joué. Ben, en fait, j'ai écrit ma version que j'avais déjà. Et ensemble, on a écrit une autre chanson aussi sur Gary. Alors, il y a deux chansons qui vont naître. On les a jouées. On les D'accord. a jouées dans son spectacle en ligne, mais elles ne sont pas encore endisquées ou vraiment mises en ligne, en quelque sorte. Mais je suis très content. Alors, Gary, il y a une suite à son histoire. Et, déjà que j'avais cité son nom de famille dans la chanson que je vous ai fait écouter au début de la chronique, on a mis comme elle, là, c'est vraiment pour lui. Deux chansons pour Gary, finalement.
Ben écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour ta chronique. Merci de nous avoir présenté cet homme-là. Et puis, c'est bien d'en parler aussi. On peut sortir de beaucoup de choses. Alors, merci pour tout ça.
Ben, bienvenue. Et puis, un jour, si vous allez dans le quartier Saint-Michel, au coin de la 20e avenue,
on verra son nom.
Il y a le parc. Oui, là, en ce moment, c'est encore Parc Saint-Damas.
Mais ça va devenir.
Mais il va devenir Parc Garin-Longhi. Et il y a voilà. sur un des bancs, devant la table de ping-pong qui est là permanentement, eh bien, il y a une plaque qui commémore la mémoire de Gary.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marco.
Bienvenue, puis, merci à vous.
À bientôt.
À très bientôt. Bonne journée à vous tous. Arrivederci. Hey, on se voit vendredi au Théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre.
Oui.
Je vais être en spectacle avec mes musiciens, Marianne et
D'accord.
Tim. On fait le spectacle Cagliari Bang Bang, un des quelques-uns qui restent de cette tournée-là.
Merci. Bye-bye.
Ciao.
Bye.
Bon Dieu, donne-nous la force. Jongler des feelings trop longs pour les peser. Vent léger, montagne back. Les tourbillons de la vie nous ont bien testé. Balcôme, meurtri des verres. Tentant fertile, on pile un peu. Dans un que nos enfants le met. En jargue, en boogie, en équilibre. Hey. L'autre prefile comme Aubenet. Sur le con, nos armes, mais on l'eau glisse. Amen. Âge de dans le jardin. On est positif, on est de l'arbin. Ça va bien, mais des postes. Dans les émotions, pas seulement à cause du bon oui, puis de la boisson, y'a ça que la bas ensemble. On est beaucoup sur le morceau, y'a c'est nous qui ramène la cool ambiance pour les pensants.
La pluie est diluvienne au jardin d'Éden.
Un peu d'art, mon ami, il faut beaucoup d'art. Mon ami, en plus, c'est des fleurs. D'adore, fait que respire par l'ami. Bon matin, ami, bon champ de bataille. Prends soin de toi, puis get your mind right. Belle nouvelle journée, et là, tu sais quoi faire, ami. Soit de la magie, ni de la chimie.
Les prêts.
partir au vent. Au jardin ça groupe, ça met du bon mood. On répand la cool ambiance pour les passants. Qu'est-ce que bat le karma qui te fait pleurer autant? La pluie est diluvienne au jardin d'Éden. Tout le monde a l'âme peine, toute la fête semaine. T'arrange ça comment si t'étais président? T'arrange ça comment si t'étais président?
Mon Dieu, donne-nous la force. Les gens qui défilent trop longs pour les peser.
La pluie est diluvienne au jardin d'Éden.
L'autre pluie fait comme condamnée. Sur le toit de nos âmes, ils ont l'obèse.
La pluie est diluvienne au jardin d'Éden. La pluie est diluvienne. La pluie est diluvienne. La pluie est diluvienne. La pluie est diluvienne au jardin d'Éden.
On vient d'entendre Caracol et Canelo qui chantaient Éden. Et maintenant, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec Isabelle Leblanc. A tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
C'est votre papa qui s'endort. Arrêtez de courir, non, ça ne me fait plus rire. Ne me faites pas mourir. travailler. J'ai votre vie à gagner. Oh, petits enfants, fermez vos petits yeux, serrez vos petits poings jusqu'à demain, dormez. Allez. Petits enfants, soyez gentils pour votre papa qui vieillit. Il est sorti hier soir et il est rentré trop tard. Il ne veut que revoir son grand lit. Il vous aime, croyez-moi, surtout quand vous êtes en pyjama. Demain soir, c'est promis, nous jouerons jusqu'à minuit. Je ferai le train, le cheval et le chien. Arrou. Faites un effort, c'est votre papa qui s'endort.
Alors on vient d'entendre Michel Rivard qui nous chantait aux petits enfants, et puis juste avant on avait le groupe Ikokwe qui nous chantait Quarantena. Alors en attendant qu'Isabelle Leblanc soit avec nous, donc on va parler théâtre et on va parler d'une pièce qui s'appelle donc Rita au désert et qui va être jouée au théâtre de Katsou très bientôt. Donc je vais vous faire un peu le pitch en attendant qu'elle vienne nous parler. À 53 ans, Rita Houle rêve de faire son entrée dans le monde et de devenir enfin une adulte. J'aime que ce soit qu'à ce moment-là qu'elle devienne une adulte. Elle est choisie pour participer à un rallye automobile qui se déroule dans le désert de Gobi. C'est quand même pas rien, le désert de Gobi, c'est hostile, comme dirait un humoriste que j'aime bien. Sa soudaine popularité la projette sous les feux de la rampe et un journaliste sportif flaire la bonne affaire avec elle. Donc, désireux de devenir biographe et de révéler au monde ses talents de narrateur, il lui propose de faire le récit de ses aventures. Mais il semblerait que, sans le savoir, il sera la voix de son tragique destin. Donc, c'est une pièce qui a lieu du 16 novembre au 4 décembre et on essaye de joindre donc Isabelle Leblanc parce qu'Isabelle Leblanc a écrit cette histoire et elle la met en scène également. Donc peut-être que dans un instant, on arrivera à savoir s'il y en a un petit peu plus. Sinon, non. On me dit qu'on n'arrive pas à la joindre. Donc, je vais vous parler d'autre chose que de théâtre, alors. Puisque, attendez un petit instant. Donc, je vais vous parler. Non, elle n'est toujours pas avec nous. Donc, on va parler peut-être un petit peu de cinéma. En ce moment, je suis plongée dans Cinémania. Vous savez que c'est Cinémania qui a lieu en ce moment comme festival encore toute la semaine jusqu'au week-end prochain. Et il y a plein de films à voir. Et un des films que j'ai vu qui m'a beaucoup amusée, parce qu'il faut quand même un petit peu s'amuser dans les films de Cinémania aussi, hein, c'est les... Ah, faut que je vous retrouve le nom, puisqu'il y a des compétitions qui sont faites là-dessus. Pour l'instant, vous pouvez aller voir... Non, toujours pas de nouvelles. Bon. Alors, on va vous mettre une courte musique, et puis je vais vous trouver les films dont je comptais vous parler demain, et je vais vous en parler ce soir. Donc, un petit morceau musical, merci. Thank you. Alors, étant donné que notre technicien Maurice Bolduc a beaucoup d'humour, il m'a mis un morceau de Miles Davis qui s'appelle Deception. Deception, mais je vais vous le dire en français parce que ça c'est un petit peu ça qui se passe. Alors là, pour vous parler cinéma, je vais vous parler d'un film qui est passé pendant Cinémania, puis qui va repasser encore dans la semaine et qui va certainement sortir sur les écrans, qui s'appelle Les Fantasmes. Et c'est un film surprenant, amusant, qui est sorti en 2021 en France et qui va sortir ici, donc avec une distribution extrêmement intense, genre vous avez Karine Viard, vous avez Carole Bouquet, vous avez Suzanne Clément, Monica Bellucci et bien d'autres. Et donc les réalisateurs, donc David Fuenquinos et Stéphane Fuenquinos, ont décidé de lister, on va dire, les fantasmes les plus répandus. Et ils en ont pris 5 qui étaient qui les a les plus surpris ou les plus amusés. Et ils ont créé des petites histoires. Chaque fois, donc, c'est 5 petites histoires dans le film. Et vous allez voir que je ne suis pas persuadée que vous connaissiez tous ces fantasmes. Peut-être certains, oui. Il n'y a rien d'érotique, c'est juste drôle, la manière dont ça se... Enfin, drôle et tragique des fois. Mais même si ça nous fait rire un peu jaune, c'est quand même toujours drôle. En tout cas, c'est très très bien joué. Donc... Il y a les personnes qui ne peuvent trouver leur plaisir que dans le chagrin de l'autre. Savez-vous ça? Et puis, bon, je ne veux pas toutes vous les expliquer, mais il y a ceux et celles qui peuvent avoir leur plaisir dans le fait d'assister à des enterrements. Excusez-moi d'en rire, mais c'est parce que j'ai comme le souvenir de la petite histoire qui se passe pendant ce film. Vous avez ensuite le personnage qui, dans une famille, lorsque il est amoureux d'une femme absolument splendide et fascinante, mais lui, son kiff, si on peut dire ça comme ça, c'est de tomber amoureux de quelqu'un d'autre de la même famille, c'est-à-dire d'une sœur, d'une nièce, etc. Ensuite, un peu plus classique, les personnages, ceux qui aiment à créer des personnages dans leur couple, mais voir où ça les amène. Donc, c'est extrêmement intéressant et amusant. Donc, si vous voyez sortir ce film sur les écrans, ça s'appelle Les Fantasmes et ça vaut vraiment le coup d'aller les voir, quoi. Vous allez rire beaucoup, peut-être encore plus à la petite histoire de Karine Viard. Vous vous en souviendrez, pour ceux qui m'auront écouté, vous vous en souviendrez si vous allez voir ce film-là. Après, dans un autre genre, un film complètement différent qui s'appelle Les Apparences. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans un couple pour garder une apparence de couple parfait, de certitude, d'amour, d'envier, qui vit dans un certain milieu, qui veut surtout pas se mélanger à d'autres et qui, dans ce petit cocon, se fait reconnaître par sa manière de vivre et qui veut surtout aucun caillou qui arrive dans ce monde presque parfait, en tout cas en apparence. Et puis en apparence, ben, y a des choses qui vont se passer, il va y avoir de la tromperie qui va être mise en exergue, il va y avoir des choses qui vont se passer. Comment on réagit quand l'autre nous trompe? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quels sont les gestes qu'on est capable de poser? Je ne parle pas d'assassiner quelqu'un d'autre, je parle des gestes qu'on peut poser, les choses qu'on n'aurait jamais faites dans notre esprit bien pensant, si ça n'était pas arrivé. Qu'est-ce que ça peut faire à l'autre partie lorsque sa femme le trompe aussi? Où ça peut amener? Jusqu'où on peut rester lié en s'aimant et en se détestant à la fois? ce film-là représente, représente ça, les apparences. C'est vraiment ce que ça veut dire, quoi. C'est ça, c'est cette histoire de couple qui n'en est plus un, et puis peut-être d'une femme qui fait tout pour garder son mari, mais quand on parle de tout, c'est vraiment tout. Alors, c'est aussi c'est réalisé par Marc Fitoussi, et la distribution, alors il y a toujours Karine Viard qui est une actrice extrêmement talentueuse, mais là, aux surprises, on voit Benjamin Biolay, voilà, comme comédien, et il est excellent dans son rôle, vraiment. D'ailleurs, tous les artistes le sont. Mais c'est quelque chose d'un petit peu lent et en même temps assez fascinant. C'est-à-dire que quand on regarde ça, on n'a plus envie de s'arrêter, même si ça fait mal au cœur. C'est un film qui a été adapté, enfin, très librement, paraît-il, d'un roman. Et voilà, donc l'histoire de Vienne, de ces palais, et ça se passe à Vienne, palais impériaux, son Danube bleu, et puis la communauté française qui, elle, est riche, enfin, qui sort entre elles, qui ne se connaît qu'entre elles. Voilà, donc c'est un beau film à voir aussi. Je vous le conseille. Voilà, donc dans l'histoire, c'est un jeune couple en vue, Ève et Henri, qui ont adopté un petit garçon. Et lui, il est chef d'orchestre, mais chef d'orchestre internationalement connu. Et elle travaille à l'Institut français. Donc quand on l'entend, il est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça donne une vie parfaite, ou presque parfaite, jusqu'au jour où, voilà, son mari succombe, elle le découvre. Comment ça se passe? Avec qui? Il y a une montée de... Comment dirais-je, de « Ah, tu m'as fait ça, je te fais ça, je te fais ça, ça fait ça », ça monte en suspense et en violence, mais pas en violence physique, en violence mentale. C'est vraiment, ça devient presque pervers. Est-ce que ça existe? J'espère que non, mais en tout cas, ça c'est certainement, ça se passe en tout cas dans ce film. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisse, on part en musique. Qui est-ce qu'on écoute? LMO. Donc, à tout de suite.
Plus les jours avancent, plus je me dis pourquoi se plaindre. Moi j'ai des plans pour l'avenir et ce n'est pas devenir prince. Je sais déjà que c'est pas l'argent qui fera mon bonheur. Le bonheur je le porte sur une main et sur l'autre c'est le cœur. Ben oui, cette vision positive m'appuie, me suit. J'entends les nuages rire même s'ils sont gris. Pour moi le vacarme chuchote sans faire de bruit. Et les tempêtes s'écartent de ma vie. De cette façon j'avance. Lentement mais sûrement, je n'oublie pas que j'ai cette chance de contempler les saisons. Dans mon quartier, je déambule depuis plus de 30 ans. Tu m'as peut-être vu petit garçon, la tête pleine d'ambition, traversant le labyrinthe à la conquête de bonnes valeurs. Moi, je n'avais pas de grande maison, plutôt trois frères et une sœur. Papa, maman, beaucoup d'imagination et les couleurs de l'automne pour me faire sentir vivant. Yeah. Parce qu'il y a l'automne, parce qu'il y a tous ces chefs-d'œuvre à admirer. Parce qu'il y a l'automne. Je me sens privilégié. Yeah. Tout petit, je rêvais d'abord d'être bédéiste ou un grand peintre. Si je te parlais de monnaie, il n'était pas question de dollars. Je dessinais à profusion mes premiers traits de passion, souvent des schtroumpfs, bref, toujours en mode création. Dans mes cahiers d'école, quelques griffonnages ici et là, voilà que mon art éclaté s'exprime par un voyage. La mode, c'était les mangas et on écrivait en tag. Notre plaisir était de reproduire les plus belles images. Au secondaire, les souvenirs contiennent moins de pages. C'est vrai que j'étais un peu plus distrait, distant, je me faisais discret. Un jeune de peu de mots, c'est ce qu'ils vous diront. Depuis le temps a émergé le papillon. J'ai mis sur papier la beauté du monde en cherchant des pierres précieuses de fond en comble. Et je me suis émerveillé devant cette feuille qui tombe. Plutôt banal, pour moi vivre et tout voir, ce n'est pas banal. Parce qu'il y a l'automne, parce qu'il y a tous ces chefs-d'œuvre à admirer. Parce qu'il y a l'automne, je me sens privilégié. admirer. Parce qu'il y a l'automne. Avoir la chance de vivre, c'est ma motivation. Si tu remets le ton en perspective, tu réviseras ta chanson. C'est pour ça que je suis toujours plein d'entrain, que de la bonne humeur. Comme si l'été était en moi, pressé d'offrir des fleurs. Les mélodies résonnent, même si je n'ai pas eu d'orchestre. La bonne vieille guitare m'a donné le son. Cette embellie à sa façon, fallait du cran pour créer, écrire et partager le tout à l'écran. Qui l'aurait cru, mes passe-temps sont devenus profession. Profitez-en, le test est réussi, enfin. Grâce à la vision de verre à moitié plein, du positif dans mes tympans. Faire ce qui me plaît sans me plaindre, c'était ça le plan. Yeah. Faire ce qui me plaît sans me plaindre, c'était ça le plan. Et l'automne m'aide, l'hiver, le printemps, l'été. Aujourd'hui encore, je me délecte de cette vérité. Yeah. Parce qu'il y a l'automne. Parce qu'il y a la vie.
Alors, il y a quelque temps, donc, et les mots parce qu'il y a l'automne, on vient d'entendre. Et puis, il y a quelque temps, j'avais reçu Franck Sylvestre, qui est un conteur absolument formidable. Et Franck Sylvestre présente Âme en exil, donc qui démarre une tournée des maisons de la culture maintenant. Donc, il était, que je vous le dise un petit peu, et ce conteur, Franck Sylvestre, a été sélectionné par le Conseil des arts de Montréal. Et il sera présenté dans le cadre d'une tournée des Maisons de la Culture. Alors, si vous avez la chance de l'avoir, profitez-en. Profitez-en vraiment. Les trois dates de cette série qui sont maintenant connues, il se produira le 13 novembre à la Maison de la Culture de Mont-Royal à 19h. Il va poursuivre sa tournée le 20 novembre au Théâtre Beaubois à Pierrefonds à 19h30, et le 27 novembre au Centre des loisirs de Saint-Laurent à 19h30. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai reçu. J'avais bien apprécié ce conteur. Il a l'air de nous fournir un très beau spectacle et il s'est entouré de collaborateurs d'expérience pour créer cette œuvre avec Antoine Saint-Maur, qui s'est occupé du Cercle du Soleil et de l'Opéra de Montréal. Donc, vous voyez qu'il y a du lourd quand même. Et dans son plus récent spectacle, il avait remporté le prix coup de cœur de l'Académie Charles Cros en France. Donc, allez le voir, allez l'entendre plutôt, mais le voir aussi. Et puis, on part en musique.
Denise, 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 immatériel, Denise. Sur notre pauvre planète, où la vie n'est pas nette, les jours de mal de mer, quand le temps est amer, chacun s'ennuie de sa mère, qui est notre port d'attache, chaque fois qu'on en arrache, qui est notre madone, celle qui nous pardonne, vers qui on s'abandonne, qui nous ouvre sa porte, chaque fois qu'on nous déporte, qui ne demande rien à nous pauvres terriens, ingrats et bons à rien. Qui nous donne à manger quand on est étranger, qui règle la rançon pour le prix d'une chanson qu'on chante à l'unisson. C'est Denise, c'est notre belle Denise Coron, la fée, notre cabane en bois rond, celle qui nous prend sous son aile, qui nous garde près d'elle, Denise Coron. Qu'est-ce qui lave la vaisselle? Qu'est-ce qui sort les poubelles? Qu'est-ce qui fait le ménage? Qu'est-ce qui fait nos bagages quand on part en voyage? Qu'est-ce qui tient la maison quand on est en prison? Qu'est-ce qui prend soin de nous, nous prend sur ses genoux quand notre gorge se noue? Qu'est-ce qui nous rend chouflus de petits liens superflus? Qui nous rend adipeux, qui nous rend sirupeux, nous qui mourons de peur? Qui remplit notre coupe avec sa bonne soupe, qui nous saoule de son vin, de son crouton divin, nous fournit le levain. C'est Denise, c'est notre belle Denise Colomb, la fée de notre cabane en bois rond. Celle qui nous prend sous son aile, qui nous garde près d'elle, Denise Colomb, qui abreuve les miteux avec des mots juteux, sortant de sa bouche en fraise, qui ce qui nous met à l'aise, nous enlève nos prothèses, qui fait un vrai poème de notre vie de bohème, qui inspire notre clan, nous protège sur son flanc, nous presse sur son sein blanc, qui partout à la ronde et la blonde à tout le monde, qui même si elle se donne n'appartient à personne et se prend pas pour une bonne, qui ravive les braguettes, rallume les cigarettes, qui ouvre grand ses cuisses à chacun dans l'hospice pour offrir cette délice. C'est Denise, notre belle Denise Caron, la fée notre cabane en bois rond. Celle qui nous prend sous son aile, qui nous garde près d'elle, Denise Caron.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission. On se quitte avec Plume la Traverse qui nous chantait Immatériel Denise. Merci beaucoup à Marco Cagliari d'avoir été avec nous. Et puis merci Maurice Bolduc pour les chansons. Et on se retrouve demain. Eh oui, on se retrouve demain. Alors à demain pour une nouvelle émission. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Au revoir.